Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, appelez-nous, exprimez-vous, venez commenter l'actualité sur l'antenne d'RFI dans 30 minutes comme tous les matins. Nous lancerons un débat et nous parlerons de la situation au Burundi, d'autant que les ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont attendus dans 48 heures à Bujumbura. Ils vont tenter d'obtenir du gouvernement qu'il accepte enfin d'ouvrir un dialogue avec l'opposition. En tout cas, il y a urgence. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies n'exclut pas le risque pour le Burundi de basculer dans la guerre civile ou pire, dans un génocide. Et d'ailleurs, dans une note confidentielle, il reconnaît ne pas avoir les moyens d'empêcher un tel scénario. Alors, faut-il déployer d'urgence des casques bleus? Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le président Pierre Nkurunziza rejetait la proposition de l'Union africaine de déployer sur le terrain 5000 hommes pour protéger la population. Alors, comment éviter le pire? Quelle doit être maintenant la réaction de l'ONU et de l'Union africaine? Vos réactions nous intéressent. Vous nous appelez évidemment 33 9 693 693 70. Le débat se déroule déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Je lirai évidemment quelques-uns de vos commentaires tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Bruno nous appelle de Kinshasa. Bonjour Bruno.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez des questions sur l'arrestation la semaine dernière de plusieurs marins de l'armée américaine dans les eaux territoriales iraniennes.
Effectivement Juan, en rapport avec cet incident naval au large de l'île Parsi sur le golfe Persique, où les marins américains ont été arrêtés puis relâchés par les forces navales des gardiens de la révolution, je voudrais savoir... Premièrement, pourquoi et comment les marins américains se sont retrouvés dans les eaux territoriales de l'Iran?
Ah, bonne question. C'est vrai que cette affaire aurait pu tourner au fiasco, à l'incident diplomatique. Bonjour Toufik Ben Aïchouch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Que s'est-il passé dans le golfe Persique la semaine dernière? Comment se fait-il que 10 marins américains se retrouvent dans les eaux territoriales iraniennes?
Alors on est dans les eaux du golfe. Il y a beaucoup de monde en ce moment. Hein, depuis qu'il y a un certain nombre de problèmes avec Al-Qaïda, l'État islamique, avec l'Iran, etc. Donc il y a un nombre considérable de navires étrangers qui croisent notamment dans le détroit d'Ormuz et surtout des bâtiments des forces américaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux embarcations, enfin deux petits navires américains, à peu près avec 10 hommes dessus, qui, selon les Iraniens, ont pénétré dans les eaux territoriales iraniennes, et donc la marine iranienne a procédé à leur arrestation. Alors, la version des Américains, évidemment, c'est une erreur, ils se sont trompés de route, c'est par inadvertance qu'ils ont croisé dans les eaux internationales iraniennes. Les Iraniens, ça fait longtemps qu'ils étaient sous blocus, etc., sont un peu chatouilleux et nerveux, donc ça n'existe pas par hasard ou on s'est trompé. Donc ils les ont arrêtés, comme le droit international le leur permet d'ailleurs. Et comme, si vous voulez, ça s'est très bien fini entre les États-Unis et l'Iran, je pense notamment...
Oui, puisqu'ils ont été libérés moins de 24 heures après leur arrestation. Ce qui est intéressant d'ailleurs, Toufik Ben Aïchouch, c'est la rapidité avec laquelle finalement cet incident a été réglé. On a bien vu que aussi bien à Washington qu'à Téhéran, on n'avait pas envie de faire monter la mayonnaise sur cette affaire-là, la surenchère, surtout pas.
Oui, incontestablement, ni l'une ni l'autre des deux parties ne voulait envenimer les choses. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, Obama, enfin l'administration de Obama a conclu un accord avec l'Iran au moins à deux reprises. Alors, on va parler très vite, mais on va pointer des accords intéressants, notamment, vous savez, quand c'est la Russie avait demandé, avait pu éviter les bombardements américains et autres sur la Syrie en offrant une porte de sortie à Barack Obama, en disant voilà, la Syrie s'engage désormais à détruire tout son armement chimique. Le problème, c'était justement que l'aviation de Bachar el-Assad avait bombardé avec des armes chimiques son opposition. Et donc, il y avait une porte de sortie déjà là, à ce niveau-là. Et donc les Américains ont vraiment l'intention de calmer les choses dans cette région. Avec l'Iran, Le problème, c'était le fait que l'on soupçonnait l'Iran de vouloir mettre au point une arme nucléaire. Donc, l'Iran a vécu à peu près 12 ans sous embargo à cause de ses craintes, etc. Et bah, l'administration Obama a finalement trouvé un accord avec l'Iran, un accord qui permet à la communauté internationale de vérifier scrupuleusement que l'Iran ne va pas dans telle direction, et donc de faire baisser l'escalade dans toute la région. Et à partir de là, du moment où il y a cet accord, eh bien, si vous voulez, les Américains et les Iraniens, même s'ils le nient officiellement, eh bien, ont quand même des convergences et travaillent ensemble pour faire baisser la tension dans la région.
Donc,
c'était pas le moment d'envenimer les choses.
C'était surtout pas le moment, d'autant qu'on était à quelques jours de l'entrée en vigueur de cet accord historique signé au mois de juillet sur le nucléaire. Et on voit bien que malgré la rupture diplomatique, Washington et Téhéran continuent de communiquer. Le téléphone a bien fonctionné entre John Kerry et son homologue iranien pour régler au plus vite cette affaire de marins américains.
Ah oui. Si on se replonge dans l'histoire, il y a très peu d'affaires de gens qui se sont terminées en l'espace de deux jours, c'est vrai, oui. Mais c'est donc une volonté de part et d'autre de faire baisser la tension et de travailler ensemble, même si on le dit pas officiellement.
Restez avec nous, Toufik Benaïchouche. Autre question avec un autre auditeur sur un sujet qui, là, pour le coup, envenime les relations entre Téhéran et Washington. Bonjour, Moussa.
Oui, bonjour Anne, bonjour Daniel Valo et Stéphane Lagarde.
Ah, effectivement, nos confrères également du service international, mais c'est Toufik Benaïchouche qui est à mes côtés. Mais on transmettra évidemment vos amitiés à Stéphane Lagarde et Daniel Valo. Quelles sont vos questions, Moussa?
Alors, l'Iran promet de prendre des mesures si les États-Unis n'amendent pas la nouvelle loi sur le visa adoptée en décembre dernier contre les touristes de 38 pays dont 30 sur le sol européen. Alors, sur ce sujet, j'aimerais savoir comment expliquer cette loi et pourquoi 30 des 38 pays ciblés par Washington se trouvent en Europe.
Alors, loi adoptée le mois dernier par le Congrès américain, immédiatement promulguée par Barack Obama. Cette loi, Toufik, Moussa l'a rappelé en quelques mots, elle stipule que les ressortissants de 38 pays ne pourront plus entrer aux États-Unis sans visa s'ils ont voyagé au préalable en Iran, en Irak, en Syrie et au Soudan ces 5 dernières années. Comment expliquer cette loi ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, cette loi est incluse, si vous voulez, dans la grande loi budgétaire qui a finalement été approuvée. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est toujours la croix et la bannière que de faire adopter ce genre de loi budgétaire. Faut trouver un équilibre entre les républicains et les démocrates.
Faut trouver des compromis.
C'est toujours très compliqué. Et cette disposition dont on parle aujourd'hui est incluse dans la loi...
sur le budget.
Voilà, sur le budget. C'est une proposition de loi qui émane des républicains, des plus durs vis-à-vis de l'Iran. Donc, je suppose, sans pouvoir me tromper grandement, je prends pas beaucoup de risques en disant ça, que ça a fait l'objet d'un deal, si vous voulez, d'un compromis entre démocrates et républicains. Vous inscrivez cette disposition contre l'Iran dans la loi américaine, et à ce moment-là, on votera le budget.
Les républicains qui sont vent debout contre l'accord conclu en juillet dernier,
qui étaient opposés très fortement à cet accord. Alors, mais il y a toujours moyen de moyenner. Si vous me passez l'expression, pourquoi tout simplement, la loi, c'est Barack Obama qui doit la promulguer, et surtout, c'est l'administration de Barack Obama qui doit l'appliquer. Donc Barack Obama va prendre son temps pour la promulguer, il va prendre son temps pour l'appliquer, et sans doute ne pas l'appliquer du tout. Il va laisser le soin à son successeur, dans quelques mois maintenant, de trancher s'il faut appliquer cette loi.
Oui, alors Moussa, justement, vous avez une autre question, Moussa?
Oui, Juan. Alors, quelles mesures faut-il s'attendre de l'Iran pour répondre à cette loi, comme l'a promis le président Hassan Rouhani?
Oui, parce que l'Iran effectivement estime que cette loi américaine est contraire à l'esprit de l'accord conclu en juillet dernier avec les grandes puissances.
Oui, tout à fait. Alors, l'Iran peut déjà appliquer la réciprocité, c'est-à-dire tout ressortissant étranger qui veut se rendre en Iran et qui se serait rendu auparavant aux États-Unis, n'aura plus de visa. Enfin, les formalités pour obtenir un visa seront beaucoup plus longues et compliquées, mais c'est pas dans l'intérêt de l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, l'accord dont nous parlions tout à l'heure permet que des investissements étrangers, et l'Iran en a immensément besoin, puisse venir, donc puisse se faire en Iran. Donc elle va pas multiplier les obstacles pour les hommes d'affaires américains, etc., etc. Mais encore une fois, je crois que ça va s'arranger un petit peu comme ça, de manière feutrée. On va prendre ce temps pour promulguer la loi, si on la promulgue d'ailleurs, et puis pour l'appliquer, on va encore prendre son temps, etc. En revanche, c'est peut-être l'Union européenne qui pourra se montrer la plus sévère sur cette disposition américaine, parce que l'Union européenne a l'intention d'appliquer la réciprocité vis-à-vis des citoyens américains.
Puisqu'on rappelle que parmi les 38 pays concernés, 30 se trouvent en Europe, et l'Europe a déjà protesté contre cette loi qu'elle juge discriminatoire.
Parce que cette mesure-là, d'abord elle va s'appliquer contre moi, puisque j'étais récemment en Iran, contre mes collègues de la rédaction du service international aussi, qui se sont rendus en Iran pour faire des reportages, donc elle va s'appliquer à nous, mais elle va s'appliquer aussi aux hommes d'affaires, ça va compliquer les choses. Ouais. Donc, voilà. Et l'Union européenne va se réunir d'ailleurs en avril, si j'ai bon souvenir, sur cette question-là. Et elle a déjà menacé d'appliquer la réciprocité.
À suivre donc.
Oui, vraiment
merci.
À suivre.
Merci beaucoup Toufik Benaïchouch d'être venu répondre à quelques auditeurs ce matin. Nous repassons au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Eric.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio, bonne année, et surtout Juan, bonjour à tous vos collaborateurs, Trentin, Marie et Rebecca, tout le reste qui vous aide dans l'ombre pour l'exécution de cette émission.
Juan. Eh bien, merci pour eux et merci de vos encouragements, et je vous souhaite évidemment, au nom de toute l'équipe, puisqu'on peut encore le faire jusqu'au 31 janvier, une belle et douce année 2016. Alors Eric, vous êtes à Berlin et vous avez des questions sur le Danemark.
Oui, Juan, j'ai suivi ces jours que le Danemark voulait voter un projet qui permettrait de retirer les objets de valeur de l'argent aux immigrants qui sont sur les territoires afin de financer donc leur séjour. Je voulais savoir, Juan, quelle est la motivation, quelles sont les raisons qui peuvent pousser donc le Danemark à vouloir voter ce projet de loi.
Alors c'est vrai que depuis la semaine dernière, le Parlement danois examine un projet de loi qui est décrié, projet de loi qui prévoit la confiscation des biens des migrants. Sunchim Courrier est avec nous, bonjour.
Bonjour et bonne année à vous.
Merci. Vous êtes la correspondante d'RFI à Copenhague. Alors ça semble incroyable. Les autorités danoises envisagent vraiment de confisquer les biens des migrants ?
Ben oui, mais d'abord je pense qu'il faut réexpliquer cette proposition de loi et ce qu'elle implique. Alors, c'est pas facile parce qu'elle a déjà subi plusieurs modifications, notamment pour que les sociaux-démocrates qui sont dans l'opposition soutiennent le projet. Elle fait partie d'un ensemble de 34 propositions et dans sa dernière version, si la proposition passe, évidemment, les policiers seront autorisés à fouiller les bagages des migrants et à saisir leur argent et leurs objets de valeur. Parce que le gouvernement danois estime que si un réfugié possède plus de 10 000 couronnes en liquide, ce qui correspond plus ou moins à 1 300 euros, eh bien c'est qu'il peut financer lui-même son séjour dans le pays. Les montres, les ordinateurs, les téléphones portables ne sont pas concernés. Les bijoux et les bagues ne le sont pas non plus, à condition que leur valeur ne dépasse pas une certaine limite. Et tout ce qui est considéré comme effet personnel présentant une valeur affective particulière, c'est comme ça qu'on le décrit, c'est-à-dire les alliances, les bagues de fiançailles, les médailles, ne sont pas concernées non plus. Alors normalement, la nouvelle loi s'appliquerait aussi aux personnes déjà présentes sur le territoire. Par contre, on ne sait pas comment l'argent serait utilisé. Alors est-ce qu'il sera confisqué et redistribué pour assurer le logement et la nourriture des demandeurs d'asile les plus nantis ? Ou bien est-ce qu'on demandera à chaque personne concernée de prendre en charge ses frais de séjour ? Là, les choses restent encore assez floues.
Ouais, en tout cas, il y a peu de suspense, hein, sauf coup de théâtre, la loi devrait être adoptée la semaine prochaine. Eric nous demandait quelles étaient les motivations du gouvernement. Pourquoi un tel projet de loi ?
Eh bien, pour vous expliquer, Eric, cette mesure, elle est dans la lignée de la politique de ces dernières années ici. Il faut dire que depuis les années 2000, le Danemark n'a pas arrêté de durcir sa politique d'immigration sous l'influence du DF. Le DF, c'est le Dansk Folkeparti, un parti d'extrême droite eurosceptique et anti-immigration. Le DF, c'est aussi le principal soutien du gouvernement minoritaire actuel. Il est devenu la deuxième force politique du pays depuis les dernières élections législatives qui se sont déroulées au mois de juin dernier. Et puis cet été, il y a eu les encarts publicitaires, vous en avez peut-être entendu parler, achetés dans plusieurs médias libanais pour décourager les migrants de venir au Danemark. Et puis il y a eu le durcissement des contrôles aux frontières. Et maintenant, eh bien, il y a ces 34 propositions de loi, dont celle sur la confiscation des biens des migrants.
Ouais, Eric, vous avez une autre question.
Oui, Juan, je voudrais savoir, est-ce que ce projet de loi ne pourrait pas construire donc une atteinte aux droits de l'homme et aux droits des réfugiés qui se trouvent dans sur le sol danois?
Alors, atteinte aux droits de l'homme, question intéressante, d'autant que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a mis en garde le Danemark. Parle-t-on sur place d'une atteinte aux droits de l'homme?
Non, en tout cas, c'est pas une atteinte aux yeux du gouvernement, puisque à leurs yeux, il ne s'agit pas vraiment de prendre les biens des demandeurs d'asile, mais bien de les faire participer à l'État-providence qui leur vient en aide, et ce, dans un souci d'égalité. La semaine dernière, je me trouvais à une conférence de presse où il y avait le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen, et il défendait tant bien que mal cette proposition de loi. Il affirmait qu'il s'agissait d'appliquer aux réfugiés les mêmes règles que celles imposées aux Danois qui touchent des aides sociales. Ses explications, elles manquaient de clarté et de précision. D'ailleurs, à chaque question sur le sujet, il évitait d'entrer dans les détails et il demandait qu'on pose la question à la ministre de l'Intégration qui n'était pas à la conférence.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sunshim Courrier, en direct de Copenhague. Il nous reste 4 minutes. On va prendre une dernière question, une question concernant le Burundi. Ce sera d'ailleurs le thème de notre débat du jour dans un quart d'heure maintenant. Bonjour Dido.
Bonjour Juan et bonjour à Carole Valade.
Alors Carole Valade qui est à mes côtés, journaliste au service Afrique d'RFI. On vous écoute, vous êtes à Kisangani, quelles sont vos questions?
Merci Juan. Parlant de la situation au Burundi, Hervé Lassus envisage 3 scénarios dont les pires évoquent le génocide. Moi je voulais savoir sur quoi s'appuie-t-il pour évoquer ces scénarios? Et pourquoi dit-il que l'ONU ne sera pas en mesure de faire face à ce troisième scénario?
Alors, ce document envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU par le chef des opérations onusiennes de maintien de la paix était censé rester confidentiel. En tout cas, dans cette note, effectivement, Hervé Latsous fait le point sur la situation politique. Il évoque 3 scénarios possibles. Carole Valade, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Dido.
D'abord, d'où vient ce document?
Eh bien, en fait, il répond à une demande du Conseil de sécurité pour préparer une future réaction à une situation d'urgence. Concrètement, il se présente en 2 parties. Il y a d'abord 3 scénarios qui sont envisagés et 2 options d'intervention. Premier scénario, donc la situation elle reste stable, c'est-à-dire qu'il y a des violences, des exactions avec des cas de viol, de torture, de disparition qui sont recensés par l'ONU depuis de nombreux mois, notamment de la part des services de sécurité. Dans ce scénario, donc il y a un espoir qu'un dialogue politique puisse encore arriver. Donc la réponse de l'ONU, en fait, c'est d'envoyer une mission d'observation pour appuyer aussi le déploiement de la MAPROVO.
Et c'est dans le scénario numéro 2 que les choses empirent.
Oui, parce que là, on passe vraiment à une situation de guerre civile. Et donc, dans ce scénario, plus question de dialogue politique. Les affrontements sont ouverts entre l'armée et les rebelles. La MAPROVO, elle n'est pas en mesure de contenir les violences. Et la crise s'étend aux provinces, aux régions frontalières. Et le nombre de réfugiés double. Et la crise humanitaire touche plus de 2 millions de personnes, notamment en raison de l'économie qui s'effondre. Mais le pire de tous, donc, c'est le troisième scénario, le plus apocalyptique, puisque, en fait, on retrouve donc les mêmes éléments que dans le scénario numéro 2, mais à plus grande échelle, et avec une différence, c'est que les violences prennent un caractère ethnique. Et c'est là que l'ONU envisage donc un risque de génocide.
Et concrètement, comment tout ça se déroulerait sur le terrain?
Concrètement, en fait, ça serait une instrumentalisation de l'ethnicité par le pouvoir ou la rébellion à des fins politiques, en appelant par exemple à des massacres. Bon, a priori, on n'en est pas encore là, mais il y a des signes inquiétants néanmoins. On se rappelle que le président du Sénat avait eu un discours ambigu. L'ONU, par ailleurs, a recueilli des témoignages de victimes qui disent qu'elles ont été prises pour cible parce qu'elles étaient Tutsis. Et bon, tout ça, c'est faux pour le pouvoir de Bujumbura, qui considère que c'est des manipulations, que c'est un complot. Ce qui est sûr en tout En tout cas, c'est que le mot génocide, il fait réagir, il attire l'attention sur le Burundi. Et en résumé, si le conflit semble essentiellement politique, il y a un risque que tout bascule du jour au lendemain si ce facteur ethnique est utilisé.
Alors ce que je vous propose, Carole Valade, c'est de rester avec nous. On va marquer une pause et retrouver la rédaction pour un point complet sur l'actualité. Dido, surtout ne raccrochez pas, je sais que vous avez encore une question. Et ça permettra ensuite de lancer notre débat du jour consacré justement à la situation au Burundi. Comment éviter le pire? Le pire, on en parle à l'instant, le génocide, ce scénario évoqué dans une note qui était censée rester confidentielle. En tout cas, dans 48 heures, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont attendus sur place à Bujumbura. L'idée, c'est évidemment d'essayer d'obtenir du gouvernement burundais la possibilité d'entamer un véritable dialogue avec l'opposition. Sinon, il faudra peut-être envisager sérieusement l'envoi de casques bleus. On en parle ensemble, évidemment, dans 10 minutes. Ce sera le débat du jour. À tout de suite.